Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez RMC. Mercredi 30 novembre,
l'info sur RMC.
7h tout pile sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous, c'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le retour fracassant du Covid à moins d'un mois de Noël, une inquiétude. Les seniors boudent la quatrième dose. Emmanuel Macron, super défenseur des intérêts européens. Objectif de sa visite de 3 jours aux États-Unis. Nous serons en direct depuis Washington. On ira ensuite à Doha, toujours en direct. Les Bleus face à la Tunisie à 16h. Match sans enjeu, mais pas sans importance.
Le Covid va-t-il une nouvelle fois gâcher Noël?
Même pas un mois pour freiner la 9e vague. Tous les voyants sont au rouge, plus 40% de cas en une semaine. Un nouveau variant et des taux de vaccination insuffisants. Le gouvernement monte au front. Très solennel hier, la première ministre a recommandé le port du masque.
Je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Les Français ont toujours répondu à l'appel de la responsabilité. Je n'ai aucun doute qu'ils le feront de nouveau.
Elisabeth Borne hier à l'Assemblée nationale qui a aussi donné ce chiffre. Seuls 10% de la population cible pour une dose de rappel est bien protégée. Les seniors rechignent à se faire vacciner. Martin Cadoret l'a constaté à Paris pour RMC.
Persuadé d'avoir eu des effets secondaires après ses 3 premières doses, Yannick ne veut surtout pas s'en faire injecter une 4e.
J'ai plus confiance là. Au départ, je me suis fait vacciner. Et maintenant, de continuer 4e et après peut-être une 5e, une 6e, non. Si c'est pour nous faire vacciner jusqu'à la fin de notre vie, non.
Quand on creuse un peu, les arguments sont souvent légers.
Je crois qu'avec 3 doses, on est quand même protégé.
Eh bien non, Nicole, l'efficacité du vaccin décroît avec le temps. Nicole qui avait reçu ses doses l'année dernière pour avoir son pass vaccinal.
Les 3 premières, en plus, il y avait une obligation. On ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus rien faire. S'il y avait un pass vaccinal de nouveau obligatoire, oui, certainement, que je serais obligé de le faire, oui.
Derrière son masque, Amar se demande si cette 4e dose est vraiment utile car il ne voit plus grand monde dans son entourage contracter le virus.
Comme ça s'est calmé, je ne vois pas pour l'instant l'utilité. J'ai jamais eu le Covid. D'ici 15 jours, 3 semaines, si je vois que ça repart, je vais la faire.
Et pourtant, le nombre de cas augmente fortement. De nombreux seniors inquiets se résignent donc à pousser la porte de la pharmacie de Lianfan.
Ils ont des résistances, ils posent des questions. Ce qui les inquiète, c'est la fièvre, les courbatures et puis les effets secondaires. Je les rassure, puis ils se font leur rappel très 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 facilement.
À tel point que le pharmacien a dû rajouter des jours de vaccination dans son planning.
Les recommandations qui pleuvent en ce moment, décaler sa machine, baisser les plaques, nous dit aussi Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. La production et la demande d'électricité pourraient ne pas être totalement alignées certains jours de grand froid, on est prévenu. Et pour faire face à la hausse des prix, de nouvelles aides pour les petites et moyennes entreprises. Hier, vous entendiez sur RMC la colère des bouchers asphyxiés par leurs factures. Un amortisseur consolidé devrait les soulager. L'annonce a été faite hier. Bonjour Amandine Réau.
Bonjour.
Une aide de l'État sera directement déduite de leur facture, c'est ça?
C'est ça. À partir du 1er janvier et jusqu'à la fin de l'année 2023, la facture d'électricité va baisser d'environ 20%. L'État va prendre en charge cette partie de la facture pour compenser le manque à gagner des fournisseurs. Le coût de cette aide, 3 milliards d'euros. Alors jusqu'ici, il fallait payer son courant plus de 325€ par mégawattheure pour en bénéficier. Ce plafond a été abaissé à 180€ le mégawattheure. Pour activer le dispositif, il suffit d'envoyer une attestation à votre fournisseur d'électricité en précisant que vous êtes éligible à cette aide. Un coup de pouce qui devrait bénéficier à de nombreuses PME de moins de 250 salariés, mais aussi les hôpitaux, les universités ou encore les associations. Pour s'y retrouver, le gouvernement doit bientôt mettre en ligne un simulateur, d'abord pour les entreprises, puis pour les collectivités.
Merci Amandine. Et en bref, l'affaire Cayeux-Sétoff, l'ex-ministre soupçonné d'évaluation mensongère et de fraude fiscale. 4 millions d'euros de patrimoine non déclaré. La justice a été saisie par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Et direction Washington à 7h04. Emmanuel Macron est arrivé cette nuit pour une visite d'État en 2-3 jours.
Au menu des discussions avec Joe Biden, la guerre en Ukraine et les relations commerciales avec l'Europe. Notre envoyé spécial à Washington, Jérémy Trottin, en direct sur RMC. Les États-Unis jouent la carte du protectionnisme. Emmanuel Macron est là pour défendre les intérêts du vieux continent.
Oui, et selon nos informations, le dossier a été à nouveau travaillé au-dessus de l'Atlantique avant même que l'avion d'Emmanuel Macron ne se pose sur la base d'Andrews de Washington. Il faut dire que plusieurs milliers d'emplois sont menacés par le plan Biden en France et en Europe. Le président américain souhaite par exemple réserver les subventions pour l'achat de voitures électriques aux seuls véhicules produits aux États-Unis. Et au-delà de l'automobile, d'autres filières européennes pourraient être impactées comme l'éolien ou le photovoltaïque. Mais si la Maison Blanche a reconnu hier devant la presse française qu'elle comprenait les inquiétudes de Paris et de Bruxelles, l'administration Biden ne semble pas encore prête à mettre en place des dérogations ou exemptions sur certains secteurs comme le souhaitait Emmanuel Macron. Revendication que le président français compte pourtant bien défendre tout au long de sa visite ici à Washington.
Washington, Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC. Et bien loin de la Maison Blanche, au large des côtes de Calais, 240 migrants secourus en 24 heures dans la Manche. Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune, annonce ce matin de la préfecture maritime. À Lille, le soulagement après l'évacuation d'un immeuble fissuré dans une rue commerçante. Pas de danger, ont conclu les pompiers après des vérifications tout l'après-midi. C'est la troisième évacuation d'immeuble en un peu plus de 15 jours. Les Lillois qui restent trop après l'effondrement mortel de deux bâtiments du centre-ville. C'était le 12 novembre dernier.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Les Bleus se préparent pour leur troisième match et dernier match de poule. Rendez-vous à 16h face à la Tunisie sur la pelouse du stade Education City. L'équipe de France déjà qualifiée qui devrait finir première de son groupe. Il suffit d'un nul. À Doha, Fabrice Hawkins nous attend en direct. Fabrice, c'est un match avec peu d'enjeux mais que Didier Deschamps ne veut surtout pas prendre à la légère.
Oui, match important, match intéressant pour Didier Deschamps qui va procéder à plusieurs changements, au moins 7. Eduardo Camavinga, par exemple, devrait jouer au poste d'arrière-gauche, lui qui joue habituellement au poste de milieu de terrain avec le Real Madrid. C'est aussi l'occasion d'évaluer certains joueurs comme Marcus Thuram qui peuvent gagner des points. D'autres joueurs vont sans doute rentrer en cours de jeu. On pense notamment au Marseillais Matteo Guendouzi et au milieu de terrain Jordan Veretout. Pourquoi pas l'attaquant Randal Kolo Muani. L'objectif, c'est de faire participer tout le monde. Ceux qui n'ont pas joué une minute depuis le début de la compétition peuvent parfois trouver le temps très long dans leur camp de base. C'est important pour la cohésion de groupe de les garder concernés. Le groupe vit bien, il ne faudrait pas que ça change.
Fabrice Hawkins, envoyé spécial RMC à Doha. Anglais, Néerlandais et Sénégalais ont obtenu leur qualification hier. Le Sénégal est allé chercher son billet pour les huitièmes au mérite et au courage. Victoire 2-1 face à l'Équateur. 20 ans que ça n'était pas arrivé. Les supporters ont fêté ça.
On a une équipe qui gagne, on a une équipe prometteur, qui ont de talent, ils vont prouver. Vive le Sénégal.
On l'a fait. On est des Sénégalais, on est fiers d'être Sénégalais. Comme nous sommes des Sénégal. Du coup, Jom, ça veut dire fierté. On est des Lions, on restera tous des Lions.
Le Sénégal qui devra se défaire de l'Angleterre dimanche. Samedi, les Pays-Bas face aux États-Unis pour les huitièmes de finale. Mais l'événement demain, c'est une femme dans une Coupe du Monde d'hommes pour la première fois. Une femme, la Française Stéphanie Frappard, va arbitrer un match Costa Rica-Allemagne. Il aura fallu attendre plus de 90 ans.
Cocorico, 7h07, c'était le journal de Marguerite Dumont.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie.
Bonjour Apolline.
Amélie, vous avez été contactée à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr par une auditrice qui souhaite rester anonyme.
Nous l'appellerons Marie. Son histoire, c'est celle de milliers de femmes victimes de harcèlement moral et sexuel au travail. Marie a entretenu une relation amoureuse avec son supérieur hiérarchique avant de décider d'y mettre un terme. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Nous avons modifié sa voix pour préserver son anonymat.
Il a commencé à me harceler, menacer, faire du chantage, vouloir vous tripoter. J'en ai quand même informé la hiérarchie de ce harcèlement, hein, donc qui n'a rien fait. Je me suis mis à l'arrêt maladie. J'ai été licenciée pour inaptitude 6 mois après. Et puis je ne suis plus retournée. Croiser son regard, c'était plus possible.
Son harceleur, lui, a continué à travailler dans l'entreprise et Marie a fini par porter plainte une première fois en 2015, classée sans suite, puis une deuxième en 2016 pour harcèlement moral et sexuel, mais aussi pour viol. 4 ans plus tard, cet homme est mis en examen, c'était en 2020, mais uniquement pour les faits de harcèlement moral, faute de preuves. Et depuis, Marie attend désespérément le procès.
Que le jugement ait lieu et que ça s'arrête, c'est tout ce que je demande. 6 ans après, il est libre, vous savez ce qu'il a commis, ça reste infini, ça sera peut-être jamais reconnu. C'est méprisant de savoir qu'on attend comme ça.
C'est justement pour ça que Marie a fait appel à nous pour alerter et sensibiliser sur ces affaires de harcèlement au travail et de délai surtout.
Et Amélie, pourquoi est-ce que ce parcours est aussi fastidieux, aussi douloureux, aussi difficile ?
Parce que d'abord, le harcèlement sexuel au travail reste difficile encore aujourd'hui à caractériser. D'ailleurs, 80% des plaintes sont classées sans suite. Et lorsqu'il y a enquête puis mise en examen, il faut encore attendre le procès. Ça peut prendre des mois, voire des années. Le temps judiciaire n'est pas toujours le temps des victimes. Sans compter que ces victimes, elles ignorent aussi souvent qu'elles peuvent également attaquer leur employeur devant les prud'hommes parce qu'il n'a pas su les protéger. Marilyn Baldeck est directrice générale de l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail.
En France, on a une espèce de prisme pénal où en fait tout doit être réglé par la justice pénale. Je suis pas en train de dire que la justice pénale, il faut la mettre de côté, mais pour autant, faut pas oublier qu'il y a d'autres voies de droit plus faciles et qui sont plus satisfaisantes en fait pour les victimes. On le voit dans nos dossiers. En fait, il y a plein de dossiers, c'est même le cas typique où la procédure pénale, elle va rien donner, mais on va gagner au prud'homme.
Est-ce que vous avez pu aider Amélie?
Nous avons contacté le parquet qui traite son dossier pour comprendre surtout d'abord pourquoi le procès tarde. Ils ont entendu notre demande, mais nous n'avons pas de retour pour l'instant. On va évidemment continuer à suivre le dossier de Marie. S'agissant de la procédure contre l'employeur, les faits qui datent d'il y a plus de 5 ans sont malheureusement prescrits. S'agissant de Marie, pour attaquer devant les prud'hommes, il faut le faire dans un délai de 5 ans. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que Marie nous a contacté, pour que son parcours il serve en fait d'exemple aux autres victimes et que celles qui nous entendent peut-être aujourd'hui et qui sont victimes de harcèlement sexuel au travail sachent qu'elles peuvent à la fois porter plainte contre l'auteur des faits, mais aussi attaquer éventuellement leur employeur devant les prud'hommes s'ils tardent à agir et à les protéger.
Mais ça doit être donc fait dans les 5 ans. Merci Amélie et courage à Marie. Vous connaissez l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Un chauffeur de car scolaire licencié en Haute-Vienne. Il déposait une collégienne devant chez elle pour ne pas la laisser seule en rase campagne. C'est pour ça qu'il a été viré, vous allez le voir. Le récit de la maman de l'élève, c'est dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 sur RMC, bon réveil à tous.
Le témoin RMC.
Notre témoin RMC ce matin, c'est vous, Christelle Nozière, bonjour. Vous
Bonjour.
Habitez les Bilanges, c'est en Haute-Vienne, et vous êtes la maman d'une collégienne. Et comme beaucoup d'enfants en zone rurale, votre fille, elle doit prendre le bus pour aller en cours. Et pour lui éviter de longer la route, qui est une route dangereuse, pour aller donc jusqu'à l'arrêt du bus, le chauffeur avait pris l'habitude de la faire monter devant chez vous, dans le bus. Et il a été licencié, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait, effectivement. Donc, ma fille, pour se rendre finalement à l'arrêt du bus, elle doit parcourir 600 mètres à pied. Donc, parcourir 600 mètres à pied, c'est pas ce qui est, gênant. Par contre, ce qui est non sécurisant, c'est qu'elle doit parcourir ces 600 mètres dans le noir.
Bien sûr, très tôt le matin, tard le soir.
Voilà, tôt le matin, parce que le car passe à 7h40 et il la dépose le soir à 17h45.
Oui, il fait
donc
nuit.
Ça veut dire, voilà, en cette période, on va dire, d'hiver, ça fait que le matin, elle doit marcher dans le fossé. Il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a pas de trottoir. C'est une route quand même passante, puisqu'il y a tous les gens qui vont travailler à Limoges, donc ils passent sur cette route, donc c'est extrêmement dangereux. Et j'avais fait en fait deux demandes de dérogation pour obtenir un point d'arrêt. Oui. Il a été refusé par les transports de Nouvelle-Aquitaine. Donc, dans un souci de sécurité, le chauffeur du car s'arrêtait pour prendre ma fille afin qu'il n'y ait pas un risque d'accident,
Christelle,
on va dire.
Si j'ai bien compris, il n'y avait pas de détour. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait un détour pour venir. Passait devant. Enfin, il passait à l'endroit
Exactement.
Où il apprenait.
Exactement. Donc, tous
on
les
peut
jours,
pas lui reprocher d'avoir fait un détour.
Voilà. Non, il n'y avait pas de détour, donc il n'y a pas de coût supplémentaire, en fait, pour la société de transport, puisque le car passe devant ma maison tous les
C'était
jours.
C'était juste
matin,
un arrêt, ouvrir les portes, laisser votre fille monter ou descendre le soir. Et vous avez pris contact, vous avez contacté la société de transport, qu'est-ce qu'ils disent ? Comment ils justifient une chose pareille ?
Non, j'ai pas contacté la société de transport parce que la procédure c'est pas celle-là en fait. Mmh. On doit s'adresser en fait au transport scolaire de Nouvelle-Aquitaine. Hein. Oui. On doit faire un courrier, donc c'est ce que j'ai fait, qui doit être validé par la commune. Oui. Donc le maire a émis un avis favorable hein, parce qu'il est très au fait de la dangerosité en fait de cette route. Et ensuite la mairie transfère en fait le courrier auprès des transports de Nouvelle-Aquitaine.
Cette histoire paraît folle parce que Christelle Nozière, on se dit pour le coup il y a une forme de bon sens et simplement de sécurité, d'altruisme, surtout qu'il n'y a pas de coût supplémentaire pour la société. Donc c'est quoi l'argument en fait? La société licencie le chauffeur parce qu'il a fait des arrêts sauvages, ce qu'on appelle des arrêts sauvages entre guillemets quoi.
Voilà, le chauffeur a été licencié parce que il a fait des arrêts sauvages et ma requête a à chaque fois été refusée parce que pour les collégiens, pour qu'ils mettent une borne supplémentaire, en fait, il faut que on soit à 1 kilomètre de la borne.
D'accord. Alors, et là, il y avait que 600 mètres, quoi, c'est ça?
Voilà, donc je suis environ à 650 mètres. Seulement, dans le règlement, c'est aussi marqué que on peut faire une demande de dérogation à partir du moment où, pour aller rejoindre la borne, ça peut être dangereux, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait.
Et cet argument-là n'a pas été retenu?
Non, cet argument-là n'a pas été retenu. Et la secrétaire de mairie, voilà, à chaque fois qu'elle a contacté hein, pour avoir la réponse, alors là où ça paraît aussi le plus faux, c'est qu'en fait, la société de transport était déjà au courant que ma requête était refusée avant même la mairie et moi-même, vous voyez.
Ah oui, d'accord. Donc en effet, voilà. Et vous vous êtes tous mobilisés, c'est ça que je trouve sidérant.
Oui,
j'ai encore deux questions, je voudrais que vous nous disiez d'abord comment fait votre fille, du coup, là, ces jours-ci, depuis que le chauffeur a été licencié et que donc elle a plus cette ouverture du bus plus près de chez vous.
Alors, elle l'a toujours. Alors, c'est ça qui est quand même assez, on va dire fou, hein, excusez-moi l'expression.
Non, mais allez-y.
Le car s'arrête toujours parce que comme cette affaire a été tout de suite médiatisée.
Ils osent
parce
plus.
Que au niveau des parents, nous avons tout de suite contacté, on va dire, la presse locale, hein, le populaire. Ouais. Ouais. Et donc, je pense que la société de transport, pour conserver son image, finalement, continue à s'arrêter. Donc, ça fait qu'il y a un chauffeur qui a été licencié parce qu'il s'arrêtait.
Parce qu'il s'arrêtait. Et le suivant s'arrête toujours.
Voilà, parce que normalement, depuis lundi matin, ma fille devait se rendre au point de ramassage. Et moi, j'ai dit non, c'est pas possible. Enfin, il faut qu'on continue, qu'on se batte. Donc, je l'accompagne tous les matins devant chez moi pour que le car la prenne. Et effectivement, le car la prend. Tous les matins.
Et il y a une vraie solidarité.
Bien le soir.
Et il y a une solidarité, on l'entend aussi avec les autres parents d'élèves. Et est-ce que vous avez des nouvelles du chauffeur licencié?
Oui, j'ai des nouvelles du chauffeur licencié qui est très très peiné, cet homme-là, parce que c'est vrai qu'il est apprécié, si vous voulez, dans le village. Ça fait 17 ans qu'il a amené nos enfants à l'école, aussi bien à la primaire au collège. Ouais. Tous les parents l'apprécient parce que c'est un monsieur qui est très à cheval hein, sur la sécurité justement des enfants. Les enfants l'adorent. Il y a des enfants qui ont pleuré dans le car quand ils ont su que leur chauffeur, en fait, ça serait plus leur chauffeur. Vous voyez, les enfants sont attachés à leur chauffeur.
Cette histoire est folle. Et quand vous nous racontez aussi le règlement, le nombre de mètres, le kilomètre qui doit séparer, tout ça est effectivement assez révélateur quand même de blocages assez absurdes. Merci en tout cas d'avoir témoigné, Christelle Nozière. Et donnez-nous des nouvelles si les choses évoluent, on espère dans le bon sens, si le chauffeur est réhabilité et puis surtout si jamais le bus arrêtait de continuer à prendre votre fille à côté de chez vous. Franchement, n'hésitez pas, vous nous appelez, vous nous contactez, il faut témoigner aussi de ce genre de choses. Merci beaucoup Christelle Nozière, il est 7h20 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
L'épidémie de Covid repart, il y a de plus en plus de malades et les Français les plus fragiles ne sont pas assez protégés. Voilà ce que nous dit le gouvernement, on en parle dans 20 minutes à 7h40 avec l'infectiologue Xavier Lescure. Et puis dans un instant, bientôt les bornes électriques dans les petites stations service. Emmanuel Le Chip nous en dit plus et Arnaud Demange, Pirate le 32-16.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
L'indiscret du service politique d'RMC avec Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Apolline.
C'est une information RMC que vous nous dévoilez ce matin. Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, va inaugurer un type de déplacement assez inédit.
Oui, le ministre va faire nuit blanche ce soir pour aller à la rencontre, je cite, de la France qui bosse de nuit, départ minuit et demi, retour 7h du matin, direction Chartres. Visite aux ouvriers d'une usine qui font les 3-8, aux soignants à l'hôpital et à un boulanger. Le but, montrer que les dispositifs du gouvernement ont des effets sur le terrain. Les ouvriers choisis ont touché la prime Macron. Les soignants, une prime exceptionnelle de nuit. Le boulanger, lui, aura droit à une nouvelle annonce, un dispositif pour le pouvoir d'achat des indépendants. Valoriser ceux qui travaillent, Attal veut en faire son credo des prochains mois.
La France qui bosse de nuit, ça nous rappelle la France qui se lève tôt, non ?
Celle de Nicolas Sarkozy, vous voulez dire, bien figurez-vous que le parallèle est plutôt assumé dans l'entourage du ministre des Comptes Publics, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, a croisé l'ancien président récemment. Monsieur Attal, je n'entends que du bien de vous, l'a même complimenté Nicolas Sarkozy. Alors à quoi pense-t-il en se rasant Gabriel Attal ? Eh bien figurez-vous que à ceux qui lui prêtent des ambitions, notamment pour la mairie de Paris, ses proches lancent cet avertissement. Si on ne passe pas l'hiver, il n'y aura pas d'ambition personnelle. Le constat à Bercy, c'est que les difficultés sont devant. Les gens vont prendre une claque en janvier, s'inquiète un conseiller qui décrit des Français tétanisés.
Sébastien Krebs du service politique d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h24, c'est l'heure d'Emmanuel Le Chypre.
Le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, Emmanuel. Le gouvernement va débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros pour aider les petites stations-service indépendantes à s'équiper de bornes électriques.
Et oui, c'est que la France a du retard à l'allumage sur le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. L'objectif, c'était 100 000 fin 2021 dans les espaces publics. On est à moins de 75 000 et 10% seulement de ces bornes sont des bornes à recharge rapide. En plus, la répartition territoriale est déséquilibrée. En Franche-Comté, par exemple, il y a 4 fois moins de bornes de recharge qu'en Île-de-France. Et donc, cette enveloppe de 10 millions concerne 4 000 petites stations-service indépendantes situées dans les campagnes ou les toutes petites villes. Ce n'est pas demain que la question de l'autonomie sera réglée pour les voitures électriques.
Et puis la question du prix aussi, elle n'est pas réglée non plus.
Oui, alors il faut bien le constater quand même, si vous mettez tout bout à bout, la voiture électrique, c'est l'anti-voiture thermique. La voiture thermique, c'était la promesse de la liberté. Là, on voit bien que la voiture électrique, elle a un sacré fil à la patte. La voiture thermique, elle était promesse de démocratisation des transports. Eh bien, on voit que la voiture électrique n'est abordable que pour les plus aisés et plutôt les citadins, au détriment des moins favorisés et des campagnards. Prix moyen d'une voiture thermique neuve, classique, 25 000 euros. C'est plus du double pour une voiture électrique. Il y a 15 000 euros d'écart aujourd'hui entre la version électrique et la version thermique d'une citadine comme la Peugeot 208.
Et c'est pas prêt de baisser.
Et non, là encore, ça n'est pas prêt de baisser puisque les constructeurs européens ont privilégié les modèles électriques chers et ne savent pas aujourd'hui faire de l'électrique bon marché, à la différence des Chinois. Songez qu'en Chine, un véhicule électrique coûte 30% de moins qu'une voiture thermique.
Et j'en parlerai tout à l'heure, tiens, avec mon invité à 8h30, Louis Alliot, qui est le maire de Perpignan. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il se bat pour ne pas mettre de ZFE, la fameuse zone dans laquelle seules les voitures électriques ou les voitures les plus récentes ont le droit de rentrer dans les centres-villes. Il refuse que Perpignan soit dans cette ZFE parce qu'il estime justement que les voitures électriques, c'est des voitures uniquement pour les plus riches. J'en parle à 8h30, 7h26, Arnaud Demange.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demanche pirate le 32-16.
Demanche pirate le 32-16. Bonjour Arnaud. Arnaud, il vient parler des Bleus, mais il est habillé en vert. Et les Bleus qui affrontent la Tunisie. Est-ce qu'il fait réagir au standard ce matin ? C'est Sandrine Rousseau qui a estimé que les Bleus étaient, je cite, des pleutres, car ils n'étaient pas engagés en faveur de la cause LGBT au Qatar.
Oui, c'est une sortie assez directe, hein, assez musclée, qui a stupéfait d'ailleurs Émilie de Montélimar, qui nous dit « Eh ben dis donc, à la NUPES, il n'y a pas que Adrien Quatennens qui n'y va pas de main morte. Gilles de Champrépuce, le Gilou, il a pris la défense de Sandrine Rousseau en nous laissant au moins, elle est super courageuse. Elle n'a pas hésité une seconde à dénoncer le Qatar depuis un plateau télé à 6000 km de distance. C'est courageux. On sent une légère pointe d'ironie.
Légère.
Non, vous la sentez pas ?
Légère.
Didier Deschamps a répondu à la députée écologiste. Oui, bonjour. Écoutez, je comprends, hein, soutenir la cause LGBT et les droits de l'homme, c'est important. Mais bon, j'ai déjà suffisamment de blessés. Je vais pas risquer en plus que mes joueurs se prennent 100 coups de fouet ou se fassent couper une main. Ou alors, il faut en trouver un pour qui ce soit moins grave s'il peut plus jouer. Attendez, j'appelle Veretout. Jordan, tu vas jouer ce soir, finalement. Non, ben moi non plus, je m'y attendais pas. Prends ton maillot arc-en-ciel, par contre, c'est important. Après, si on leur coupe la main, bon ben voilà, nos défenseurs ne provoqueront pas de pénalty dans la surface. Il faut voir le positif dans tout. Bref, Ce soir, France-Tunisie, match sans enjeu. Les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes. Les huitièmes, ou comme on dit au PSG, Charles, la grande finale.
les Bleus, de l'aventure.
Bah oui, les Bleus ne s'en sortent peut-être pas avec les mires, mais ils peuvent finir les qualifs en beauté. Cyril Chanson, ce matin. Et ouais, elle est belle.
C'est bon.
Allez, à tout à l'heure.
Et comme vous êtes en vert, Arnaud, en régie, on me susurre dans l'oreille. On va vous faire une petite surprise pour 8h20. Oh, vous allez avoir une belle incruste, je pense. Merci. Il est 7h28, c'était donc Arnaud Demange qu'on retrouve à 8h20 tout à l'heure sur RMC. À tout de suite. Et vous êtes bien sur RMC, le journal de 7h30, c'est Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les boulangers croisent les doigts ce matin. La baguette de pain va peut-être entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les Français priaient de remettre le masque dans les transports pour que la triple épidémie grippe, Covid, broncholite ne vienne pas gâcher les fêtes. Et puis la France contre la Tunisie, cet après-midi à la Coupe du Monde, le fameux match des coiffeurs.
Le monde entier nous l'envie. La baguette de pain va peut-être entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO ce matin.
La décision va tomber dans la matinée. C'est une longue démarche. En attendant, les boulangers ont mis les petits pains dans les grands pour convaincre l'UNESCO de classer la baguette à son patrimoine culturel immatériel, ce qui serait du pain béni pour les 3000 boulangeries françaises. C'est ce que nous dit Alfred Orange pour RMC.
Sortie du four pour entrer au patrimoine mondial, les baguettes de Lionel savourent.
On va la laisser chanter. Comme ça, sans se brûler les doigts.
Avec ses équipes, il cuit 700 baguettes par jour.
On est touché que notre métier soit reconnu, quoi.
La récompense aussi d'un travail acharné au quotidien.
Faut imaginer une boulangerie comme la nôtre, ça fonctionne de 3h du matin, l'arrivée du premier boulanger, jusqu'à 20h, et ça 6 jours sur 7.
En boutique, effectivement, tout le monde l'appelle.
Une tradition, s'il vous plaît.
Blanche ou bien cuite.
Ça réconforte, ça, le soir, d'avoir sa baguette, c'est top.
Des fois, j'en prends deux, puisque je suis gourmand.
Pour tous ses clients, ce savoir-faire doit être défendu face aux nouveaux venus.
C'est depuis l'apparition des paninis. Les jeunes se sont habitués à manger du pain à moitié cru. Voilà. Je souhaiterais que les jeunes aiment le même pain que moi. Le vrai pain, bien cuit, croustillant.
Et c'est vrai qu'une fois sous le bras, difficile de résister.
Elle ne survivra pas jusqu'à la maison, c'est sûr. Elle sera entamée dans les 2 prochaines minutes, c'est sûr.
Comme cette cliente, 12 millions de Français succombent chaque jour au charme de la baguette.
Il est 7h33 sur RMC, la consommation d'électricité encore en baisse, moins 6,7% la semaine dernière, c'est ce que nous dit RTE. C'est l'effort des entreprises surtout qui est visible. Les particuliers sont appelés par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à éviter de faire tourner lave-linge par exemple aux heures de forte consommation. Concernant la triple épidémie, Covid, bronchiolite et grippe, les indicateurs sont encore à la hausse et c'est donc un appel solennel que lance la Première Ministre Elisabeth Borne, appel à respecter les gestes barrières, par exemple dans les transports en commun, en portant le masque, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, écoutez, ici à Paris.
Ceux qui veulent mettre le masque, mais moi personnellement j'ai pas très envie, alors du coup je veux pas le remettre.
Parce qu'après t'étouffes avec le masque.
Dans le métro, y penser, sortir avec et tout, non, impossible.
S'il faut le faire, je le ferai parce que j'ai pas envie de mettre la vie des autres en danger. Mais je pense que quand même il y a un truc d'interaction sociale qui est un peu biaisé.
En fait je l'ai toujours gardé, même lorsque le masque n'était plus obligatoire. Je préfère pour me protéger et éventuellement protéger les autres.
Seulement 21% des plus de 80 ans sont à jour de leur vaccin contre le Covid. Chiffre du ministère de la Santé. Alors qu'est-ce qui vous retient? Pourquoi ne voulez-vous pas vous faire vacciner? Venez poser cette question tout à l'heure à l'infectiologue Xavier Lescure qui sera l'invité d'Apolline de Malherbe juste après ce journal sur RMC. Le numéro, vous le connaissez, c'est le 3216. Ce matin, je vous signale que 10 000 soignants, dont 400 chefs de service, signent une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer le silence assourdissant, disent-ils, d'Emmanuel Macron sur la crise de la pédiatrie. Emmanuel Macron qui est arrivé cette nuit, comme prévu, aux États-Unis pour une visite de 3 jours, visite d'État, la première sous l'ère Biden. Tiens, d'ailleurs, c'était une de ses promesses de campagne à Emmanuel Macron, mettre en place des dividendes pour les salariés, obliger en fait les entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires à verser également des primes à leurs employés. L'idée fait son chemin. Le parti présidentiel Renaissance vient officiellement de valider cette idée, alors que les patrons sont divisés sur le sujet, nous explique Victor Joannin avec des exemples pour RMC.
Dans la start-up fondée par Johanna Bollander il y a 3 ans, les 7 salariés sont récompensés cette année par une prime de participation et d'intéressement de plus de 500 euros.
On est rentable depuis maintenant 1 an et on a de la valeur à distribuer, qu'on distribue bien sûr à nos salariés. Aujourd'hui le recrutement est très difficile, conserver des talents est très difficile. Ces avantages-là contribuent à leur donner envie de rester et travailler encore plus à valeur pour aller chercher encore plus de valeur plus loin.
Johanna Bollander est une exception puisque seuls 17% des entreprises de moins de 10 salariés utilisent un dispositif de partage de de la valeur. Le dividende salarié voulu par le gouvernement serait contraignant. Et c'est là tout le problème, selon Arthur Descarmandian, qui vient de lancer son entreprise de livraison de repas.
L'idée des dividendes salariés est intéressante, mais le côté obligatoire, ça ne me plaît pas trop. Chaque chef d'entreprise est libre de choisir de son mode de fonctionnement. Favoriser, aider les entreprises à franchir ce cap, oui, pourquoi pas.
Les chefs d'entreprise craignent aussi que le dividende salarié soit trop compliqué à mettre en place, même si le gouvernement a promis de le simplifier au maximum.
Je vous signale que les traversées continuent dans la Manche, malgré l'accord franco-britannique qui vient d'être signé pour plus de patrouilles, notamment sur les plages côté français. 240 migrants ont été secourus depuis lundi soir, selon la préfecture maritime.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Et c'est au stade de la Cité de l'Éducation, dans un stade qu'on compare à un diamant. Tout à l'heure, que les Bleus joueront, ce sera dans l'après-midi à 16h, leur troisième et dernier match de poule face à la Tunisie. Ce sera forcément particulier pour tous les supporters et même les joueurs franco-tunisiens, comme nous l'explique Clément Brossard pour RMC.
Oui, tous se rappellent de la dernière confrontation amicale entre les deux nations, il y a 12 ans. Mais cet après-midi, pour les supporters tunisiens, l'aspect Coupe du Monde entre en jeu.
J'attendais de voir un match comme celui-là, et en Coupe du Monde surtout, ce sera une fête.
C'est toujours compliqué, on est né ici, notre cœur il est là-bas, que le meilleur gagne.
Parmi ces binationaux, Elias Kiri, le milieu de terrain, a grandi dans l'Hérault. Il est impatient à l'idée d'affronter les Bleus.
C'est un tirage rêvé, hein. J'ai grandi dans ce pays, donc forcément je le connais par cœur. Je sais que ce sera un match très regardé, et ce sera forcément un grand plaisir d'affronter quasiment les meilleurs joueurs du monde dans cette équipe de France.
Son coéquipier et défenseur Montassar Talbi est lui né à Paris, mais une fois le coup d'envoi donné, il n'aura qu'une mission en tête, faire gagner la Tunisie.
Ça va être, comme j'ai dit, un match peut-être un peu spécial, surtout pour nos entourages qui sont en France, etc. Mais pour nous, en tant que joueurs, on veut tout simplement donner le meilleur et essayer d'aider les coéquipiers et l'équipe nationale au maximum.
Quant au photographe Nani, il suit la sélection depuis 1998 et rêve secrètement d'un exploit.
Si on arrive à battre la France, pour nous, c'est comme on a gagné la Coupe du Monde. Après, on peut rentrer.
Tout autre résultat qu'une victoire éliminerait la Tunisie du Mondial.
Allez, allez,
Et un nul suffira aux Bleus pour finir premier du groupe, même en cas de victoire de l'Australie face au Danemark. C'est l'objectif pour ce match qu'on appelle traditionnellement le match des coiffeurs, celui des remplaçants qui coiffent les titulaires en prenant leur place. Voilà l'expression, ça amuse les coiffeurs. On leur a posé la question sur RMC et c'est ce que nous dit Benjamin Stalter, un de leurs représentants en Alsace.
Ça nous fait déjà plaisir qu'on fasse parler du métier, même si c'est de façon détournée, mais ça nous fait toujours un peu sourire parce que au fil des années, on ne sait même plus forcément pourquoi on appelle ça l'équipe des coiffeurs. C'est pas très positif parce qu'on va dire c'est un peu l'équipe B qui va jouer, mais en même temps c'est quand même la crème de la crème des joueurs qui ont déjà été sélectionnés au départ. On verra à la fin du match, mais peut-être que cette équipe de coiffeurs pourra nous surprendre également. C'est des heures où on est au salon, on essaye de diffuser les matchs pour nos clients. C'est les coiffeurs qui regarderont les coiffeurs jouer.
Les coiffeurs qui vont regarder les coiffeurs.
Mais fabuleux. Oui,
allez regarder le match des coiffeurs au salon.
Il y a un doute quand même sur la présence de Kylian Mbappé qui souffre d'une petite gêne à la cuisse depuis quelques jours. On saura aussi dans la soirée sur qui on va tomber en huitième de finale. Ça va dépendre du choc à 20h entre la Pologne et l'Argentine. Hier soir, l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas et le Sénégal se sont qualifiés pour les huitièmes.
Et le Quintet Quentin, c'est à Deauville.
Encore une fois, 13h50, RMC Découverte. Les pronostics de la Dream Team ce matin, le 6, le 5, le 6 en favori Monsieur Xou, le 5 en outsider Baden Rocks.
C'était le journal de Quentin Vinay. Il est 7h38. Sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le retour du Covid, 9e vague. Il y a de plus en plus de malades à l'hôpital. Xavier Lescure sera avec nous dans un instant, infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Comment faire pour freiner le virus? Est-ce qu'il faut remettre le masque, comme le demande la première ministre? On en parle dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41. Bon réveil à tous.
L'invité du jour.
C'est vous, Xavier Lescure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, vous travaillez à l'hôpital Bichat où vous êtes infectiologue et vous êtes aussi membre du COVARS. Le COVARS, c'est ce qui a pris la suite du comité scientifique. C'est désormais le comité de veille des risques sanitaires. Et il y a de plus en plus de malades du Covid. On est au début de ce qu'on appelle une 9e vague. On avait même du mal à compter, 9e vague épidémique. Elisabeth Borne appelle à remettre le masque. Elle appelle solennellement à remettre le masque, vous aussi?
Oui. On l'a appelé, alors le COVAR, c'est un comité de veille et d'anticipation.
Et d'anticipation, bah justement, on va voir ce que vous avez anticipé.
Ouais. Et on avait anticipé, puisque sur notre premier avis de septembre, de fin septembre, on avait vraiment fortement recommandé le port du masque. On s'était posé la question de l'obligation. On était sur des chiffres d'incidence qui n'étaient pas majeurs. On a plus de 2 ans et demi de crise. Avec des phénomènes de saturation et de difficulté d'adhésion, de
Si on oblige à porter le masque, vous redoutez qu'éventuellement il y ait une forme de lassitude, de ras-le-bol?
Plus de lassitude, d'effets contre-productifs et de ras-le-bol exprimé encore plus fort qu'aujourd'hui.
Donc vous tablez, comme la Première ministre, davantage sur une forme de responsabilité individuelle?
Une forme de responsabilité individuelle et collective, et une forme de solidarité par rapport aux plus fragiles. Et les plus fragiles, c'est les gens âgés, les gens immunodéprimés, quel que soit leur âge, et c'est le système de soins aujourd'hui, et c'est tout le problème en termes de ce qu'on peut tolérer comme événement.
Le système de soins, on va y revenir, et on entend évidemment tous les cris des hôpitaux qui disent qu'ils n'ont plus les moyens de faire face effectivement aux vagues qui arrivent et qui sont déjà souvent saturées. Je voudrais revenir sur une phrase d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui a dit hier, je le cite, « Les patients qui sont atteints de grippe et de Covid ont deux fois plus de risques de mourir. » Ça veut dire quoi? Ils pensent à ceux qui ont et le Covid et la grippe en même temps? Ça, c'est possible ça?
C'est possible, mais c'est pas très fréquent et c'est anecdotique. Quand il dit ça, c'est que quelqu'un qui n'a pas une dose récente, par rapport à quelqu'un qui vient d'avoir son injection pour passer l'hiver tranquille, entre guillemets, a deux fois plus de chances de mourir.
Donc, on meurt encore aujourd'hui du Covid et aussi de la grippe.
Une centaine de morts par jour en ce moment.
Une centaine de morts par jour, on l'oublie parce qu'on n'a plus effectivement le professeur Salomon qui chaque soir à 19h nous fait la litanie des morts. Mais on meurt encore aujourd'hui, une centaine de personnes meurent chaque jour du Covid en France.
Oui. Et au-delà de la mort qui est un événement évidemment catastrophique, vous avez des hospitalisations en réanimation, des hospitalisations qui fait que au-delà du drame individuel d'une mort, vous avez un impact individuel sur des hospitalisations et un impact collectif sur le plan économique, mais sur le plan aussi de la charge que doit assumer l'hôpital.
Vous travaillez à l'hôpital Bichat, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent aux urgences et qui sont malades du Covid, qui font des formes graves, compliquées? Quel est leur profil?
On en voit, mais en fait, il y a toujours un décalage entre le début d'une vague et l'impact à l'hôpital, qu'il soit en hospitalisation conventionnelle ou en réanimation. On n'a pas encore cet impact et on voit quelques cas de Covid qui sont essentiellement chez des personnes très immunodéprimées, qui font pas forcément des formes respiratoires, qui font des formes frustes, des altérations de l'état général, des diarrhées, etc.
Donc il y a d'autres symptômes désormais. Hein.
Voilà, il y a un florilège de symptômes qui sont pas uniquement respiratoires, qui sont d'autant plus difficiles à identifier et à documenter, notamment chez ces personnes fragiles pour lesquelles la vaccination est moins efficace que quelqu'un qui a un système immunitaire compétent, mais pour lequel il existe des traitements.
On en a suffisamment. On a ce réflexe désormais.
Ben, le problème, c'est qu'on en a, mais on n'a pas le réflexe. Et le souci aujourd'hui, c'est qu'on a une boîte à outils qui est assez complexe.
Complète.
Mais plutôt plus complète que complexe. Mais par contre, la complexité, c'est de la mettre en œuvre, de l'appliquer. On a des masques qui protègent, qui diminuent le risque de transmission de 20%. On a des traitements qui protègent très efficacement, qui diminuent le risque de mortalité de 90%. On a des vaccins qui protègent efficacement. Une dose juste avant un hiver va effectivement vous faire très significativement baisser le risque de mortalité de ces gens en réanimation, d'hospitalisation et même d'infection symptomatique.
Donc on a des masques, on a des traitements, on a des vaccins. Qu'est-ce qui peine?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la saturation, c'est le fait que tout le monde en aura le bol. Mais finalement, quand on regarde la trousse à outils, elle n'est pas si compliqué que ça à mettre en place, c'est des messages clairs, un portage...
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent? C'est-à-dire que moi, je voudrais que ceux qui nous écoutent ce matin sachent, est-ce qu'il faut continuer à se tester? Est-ce qu'il faut continuer à s'isoler? Est-ce qu'il faut aller se faire vacciner là? Et on en est à la combientième dose et pour qui?
Je vais vous le dire, j'ai oublié dans la boîte à outils, évidemment, les tests qui sont extrêmement importants. Tests très performants et qui vont jusqu'au, comme on le sait tous, l'autotest, qui va permettre à ce que la personne se prenne en charge, s'autonomise et à la limite fasse un test en cas de symptômes, quels qu'ils soient, même s'ils ne sont pas graves, et va pouvoir permettre de protéger des gens fragiles sur des contacts avec un masque avant la rencontre. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire que quand on est très fragile, on a accès à un traitement efficace, accessible à l'hôpital, mais aussi en ville. Donc, quand quelqu'un est fragile, il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, il faut se faire prescrire, si le médecin n'y a pas pensé, un traitement curatif oral, 5 jours. Efficace.
Donc on peut même être celui qui dit au docteur, et docteur, pensez-y, il y a ce traitement, est-ce que j'y ai droit, quoi ?
On a un traitement curatif.
Ok.
Premier point. Deuxième point, on a des vaccins efficaces, mais comme toutes les infections virales respiratoires, ce vaccin n'a pas une durabilité très longue. Ça couvre entre 3 à 6 mois. C'est pareil pour la grippe.
D'accord.
C'est pas une nouveauté, c'est pas une faille dans le système vaccinal de la Covid. Donc, avant chaque hiver, quand on est une personne éligible, en gros, c'est une personne fragile liée à son âge ou à son système immunitaire, ou quand on est soignant pour protéger les patients, on se vaccine avant l'hiver.
On se vaccine avant l'hiver, on porte le masque, on se teste et on se traite.
Et on porte le masque quand on est dans un environnement qui est difficile à ventiler, les transports, ou quand on est en contact avec une personne fragile.
Il faut donc reprendre le réflexe du masque. Merci, docteur.
Et juste,
allez-y.
Et pour les fêtes, parce que c'est un vrai souci, c'est une vraie question.
Papy mamie dans la cuisine ou...
Non, on se teste avant d'aller voir papy mamie.
Reprendre donc le réflexe des autotests.
Et on demande à papy mamie de se vacciner avant d'aller leur faire des
et on les encourage à aller se vacciner pour réussir à passer l'hiver. Merci Xavier Lescure d'être venu dans ce studio. Vous êtes médecin, infectiologue et membre du COVARS. Donc, le traitement dont vous parliez, ça s'appelle le Paxlovid et il ne faut pas oublier donc d'y avoir recours quand on le peut. Il est 7h49 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et dans un instant, la désormais ex-ministre Caroline Cayeux a-t-elle menti ? La justice est saisie après des soupçons de déclaration de patrimoine mensongère. Les détails de cette nouvelle affaire qui touche l'exécutif, c'est dans un instant avec Nicolas Poincaré.
Apolline Matin. Le bonus RMC.
Et le bonus RMC, le bonus de Charles. Un rendez-vous cinéma pour les fans de Johnny.
Une projection unique, notez bien la date, ça va se passer lundi prochain, lundi soir, dans 200 salles de cinéma en France, en Belgique, en Suisse. Une projection unique du concert mythique de Johnny à Bercy en 92. Version remasterisée de cette série de concerts donnée à l'automne 92. On y voit, je cite, un Johnny qui déploie ses talents de performeur exceptionnel dans des mises en scène spectaculaires. Au programme, tous les tubes de La Musique que j'aime, Gabriel, Que je t'aime, L'envie, Je te promets. Et puis décembre sera un mois chargé pour les fans de Johnny, puisqu'à Bruxelles, à partir du 20 décembre, vous pourrez visiter une exposition immersive consacrée au chanteur. Ça se passera à Bruxelles à partir du 20 décembre. Il faudra attendre 2024 pour que cette expo immersive arrive à Paris.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a saisi la justice hier sur le cas de Caroline Cayeux, l'ancienne ministre qui a démissionné lundi. Elle avait visiblement fortement sous-évalué son patrimoine.
Oui, et cette Haute Autorité estime que les manquements reprochés à Caroline Cayeux peuvent être qualifiés de fraude fiscale et d'évaluation mensongère de son patrimoine, délit qui peut être puni de 3 ans de prison. Les sommes avancées sont de 3,9 millions de sous-évaluation pour son appartement parisien et une maison en Bretagne, ce qui représente tout de même la moitié de la valeur de ces deux biens. D'après le journal Le Courrier Picard, Caroline Cayeux possède avec sa sœur un immeuble haussmannien, place de l'Alma, dans le 16e arrondissement à Paris, face à la Tour Eiffel. Elle détient 99% d'une SCI estimée à 12 millions d'euros, plus la maison à Dinard, un appartement à Beauvais et des forêts pour chasser en Sologne. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique souligne que l'ancienne ministre a été alertée sur ces sous-évaluations dès 2021, mais qu'elle a tardé à corriger sa déclaration.
Est-ce qu'on sait d'où vient cette fortune ?
Oui, de plusieurs héritages. Caroline Cailleux est la fille de Pierre Fournier, qui est le créateur d'un laboratoire pharmaceutique qui porte son nom et qui l'a revendu plus d'un milliard d'euros. Sa mère était l'héritière des peintures Lefranc et sa grand-mère s'appelait Geneviève Panhard, héritière, elle, du constructeur automobile Panhard, qui a été racheté par Citroën dans les années 60. Tout cela la place à la tête d'une très grande fortune, mais on n'en connaît pas le montant exact, puisque les déclarations de patrimoine des ministres n'ont pas encore été publiées, et la sienne ne le sera pas en raison de sa démission, ce qui ne l'empêchera pas de devoir s'expliquer devant la justice.
Sa démission était inévitable.
Oui, la ministre chargée des collectivités territoriales a eu un long entretien dimanche avec la première ministre Elisabeth Borne, puis un entretien téléphonique avec le président qui lui ont fait savoir qu'elle ne pouvait pas rester au gouvernement. Déjà au printemps dernier, juste après sa nomination, elle avait failli démissionner, mais pour d'autres raisons, des propos homophobes étaient ressortis. Elle avait déclaré que l'union entre deux personnes du même sexe était contre nature, et interrogée après son entrée au gouvernement, elle avait maintenu ses déclarations, ajoutant en parlant des homosexuels qu'elle avait beaucoup d'amis chez ces gens-là. À l'époque, Emmanuel Macron l'avait soutenu. Aujourd'hui, les choses sont différentes parce que le président ne peut pas se permettre un scandale financier de plus. La semaine dernière, on a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire sur l'affaire McKinsey qui risque d'éclabousser ses proches. Et hier, on a révélé de nouveaux éléments gênants pour Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Dans ce contexte, il était impossible de garder une ministre qui pouvait à tout moment être mise en examen pour fraude fiscale.
Caroline Cailleux, qui n'est pas la première victime de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Hein.
Non, c'est une institution qui a été créée sous François Hollande juste après l'affaire Cahuzac. Certains avaient pensé à l'époque que ce serait un machin surtout destiné à étouffer le scandale des comptes en Suisse du ministre des Budgets. Bien pas du tout. La Haute Autorité est devenue une institution respectée et efficace. Juste après sa création, d'abord un premier ministre, Thomas Thévenoud, a dû démissionner parce qu'il ne déclarait pas ses revenus. Depuis, d'autres ministres, Yamina Benguigui et Alain Griset, ont été condamnés au pénal pour avoir minimisé leur patrimoine. En tout, 120 dossiers ont été transmis à la justice et plus d'une trentaine de parlementaires ont été condamnés à de la prison avec sursis et à des amendes. Caroline Cailleux est la dernière, donc sur une longue liste de politiques qui se sont pris les pieds dans le tapis sur cette question de la déclaration de leur fortune.
Les explications de Nicolas Poincaré tous les jours, 7h50 et en podcast, bien sûr. On se retrouve dans un instant pour la météo du journal.